Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, confiné à mon domicile comme mesure préventive pour isoler le virus de la Covid-19, qui vous parle depuis Buenos Aires, Eric Domergue, je renoue le contact avec vous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Sylvain Avellaneda, Julien Cortés, responsable du site web, sous la direction de Adrien Corolle. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport officiel sur la santé présenté par le gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Y figurent également les horaires de transmission par onde courte, alors qu'en streaming, quotidiennement, vous avez accès à la programmation commune de Radio Nationale Argentine sur la plupart des signaux AM, FM et RAE. Et ne manquez pas d'envoyer vos rapports de réception à qslrae@gmail.com. En outre, je vous invite à visiter la chaîne YouTube de RAE, l'Argentine vers le monde, où vous pouvez trouver une partie des productions et des contenus réalisés par toute l'équipe qui constitue le signal international des médias publics en Argentine. Maintenant, place à l'actualité. Alors que différentes villes et provinces commencent à mettre en œuvre la phase 5 des mesures contre le coronavirus, et plus de 100 jours après la déclaration de l'urgence sanitaire dans toute l'Argentine, la ville de Buenos Aires et sa grande banlieue sont revenus mercredi 1 juillet à la phase 1 de contrôle en raison de l'augmentation du nombre de personnes infectées dans la zone la plus peuplée du pays où se concentre un tiers de la population. L'isolement social obligatoire est revenu à une phase plus stricte qui, pendant 15 jours, inclut la ville de Buenos Aires et la zone métropolitaine qui comprend des districts de la province de Buenos Aires, la plus grande d'Argentine en termes de population. Pendant ce temps, le ministre du Développement social, Daniel Arroyo, a insisté sur le besoin de parvenir à un grand consensus de tous les secteurs sociaux et politiques en faveur de la mise en place d'un revenu universel de base comme politique d'État pour atténuer les graves conséquences que la pandémie laissera. Selon le ministre, il s'agit de convertir les plans actuels en un revenu de base universel, ce qui est discuté dans le monde entier. Les projections en Argentine indiquent que d'ici la fin de l'année, au moins 60% de la population vivra dans la pauvreté et une estimation élevée de personnes sans emploi. Selon Arroyo, pour pouvoir commencer à mettre en œuvre les mesures qui permettront la transition post-pandémique, il faudra également déplacer au moins 4 millions de personnes vivant dans des quartiers pauvres qui pourront commencer à relancer leur entreprise auparavant informelle afin de faire bouger l'économie et engendrer la consommation, ainsi que l'accès à des conditions de vie décentes. L'avocate argentine Maria del Carmen Verdú est la coordinatrice de Correpi contre la répression policière et institutionnelle, une organisation politique active dans le domaine des droits de l'homme avec un accent particulier mis sur les politiques répressives de l'État. Madame Verdú explique pour les auditeurs de RAE en français l'étendue de son action.
Je suis Maria del Carmen Verdú, avocate et membre de Correpi, coordination contre la répression policière et institutionnelle. À ma naissance, mon père, qui était un grand francophile, a décidé de ne pas me parler en espagnol quand nous étions seuls. Ainsi, très naturellement, je savais qu'on parlait d'une manière quand j'étais avec ma mère, mes amis ou à l'école, et d'une autre avec mon père. Une fois que j'ai grandi un peu et que j'ai réalisé que c'était une autre langue, j'en ai profité. Quand j'étais adolescent, j'ai suivi quelques cours de littérature dans l'Alliance française de Buenos Aires et j'ai eu la chance de visiter la France 2 fois. Correpi est une organisation populaire avec l'objectif de lutter contre la répression policière que nous comprenons comme faisant partie de la violence institutionnelle. La question de la violence policière est l'un des problèmes de droits humains les plus importants dans les pays comme l'Argentine, car la torture, brutale et généralisée, les disparitions et les meurtres de la gâchette facile sont des nouvelles quotidiennes. La répression policière n'est pas un problème lié à une formation inefficace, à des erreurs individuelles ou à des accidents. Ce n'est pas un recueil d'épisodes isolés ou d'actes de quelques psychopathes mal recrutés. La répression policière est inhérente à nos démocraties restreintes et constitue un moyen efficace de contrôle social nécessaire au système. C'est une méthode pour imposer un système socio-économique injuste et à l'heure actuelle, les statistiques montrent une moyenne de plus d'un meurtre par jour en raison de la torture ou des tirs de gâchette facile. Chez Correpi, nous développons notre mission dans différents domaines. Nous accordons une grande importance à la bataille de la cour et de nombreux policiers et membres d'autres forces de sécurité ont été condamnés lors du procès avec nos camarades représentant les familles des victimes. Mais nous déployons tous nos efforts pour dénoncer publiquement les politiques répressives de l'État, encourageant ainsi les manifestations, les rassemblements, les festivals et d'autres événements massifs. Nous publions toutes sortes de documents concernant la répression et nous offrons des conseils sur la manière de s'y opposer à condition que nous soyons organisés et disposés à la combattre. Nos militants visitent généralement les écoles, les universités et les quartiers modestes, discutant avec les jeunes et les travailleurs de leurs droits et de la nécessité de promouvoir l'organisation populaire anti-répression. Nous entretenons de bonnes relations avec les médias et nous prenons généralement part aux débats publics et aux conférences. Nous avons réussi à créer une sorte de réseau d'urgence dans tout le pays qui nous permet d'être informés de presque tous les cas ou situations où nous pourrions aider et nos réflexes de réponse se sont révélés assez efficaces. Nous restons également en contact permanent avec des organisations fraternelles à travers le pays, ainsi que dans d'autres pays d'Amérique latine. Depuis la propagation de la pandémie de COVID-19, la répression s'est intensifiée en Argentine, car le gouvernement a laissé la mise en œuvre de l'isolement social préventif et obligatoire entre les mains de l'appareil répressif, au lieu de garantir des mesures sanitaires et d'aide sociale qui permettraient à toute la population de se conformer sans avoir à choisir entre s'infecter pour sortir et gagner sa vie au quotidien ou rester à la maison et mourir de faim. Donc, le même jour que cette décision a été prise, le 20 mars, nous avons dit qu'en plus de prendre soin du virus, nous devions nous défendre contre une vague croissante de répression. Les forces auxquelles le gouvernement a délégué le contrôle de l'isolement sont les mêmes qu'au cours des 4 dernières années ont assassiné en moyenne une personne toutes les 19 heures avec la gâchette facile ou dans des lieux de détention. Ce sont les mêmes forces qui procèdent quotidiennement à des arrestations arbitraires, qui torturent systématiquement dans les prisons et les commissariats de police, qui répriment les travailleurs qui s'organisent pour défendre leurs droits et qu'ont disparu Luciano Arruga, Santiago Maldonado et maintenant Luis Espinosa, parmi près de 200 autres disparus en démocratie. La restriction de quarantaine, en tant que décision politique du gouvernement, reflète les mêmes caractéristiques de toute autre politique d'État. Rien n'exacerbe plus ce qui existe déjà en matière de répression qu'une situation exceptionnelle dans laquelle les pouvoirs d'action des forces s'élargissent. La police et les autres forces n'interagissent pas de manière égale avec qui que ce soit, ni interviennent pas de la même manière n'importe où. L'objectif des pratiques telles que les arrestations arbitraires ou la gâchette facile est le contrôle social qui vise à discipliner non pas les bénéficiaires du système d'exploitation et d'oppression, mais ses victimes. C'est pourquoi les endroits les plus touchés sont les quartiers populaires et les groupes les plus affectés sont les pauvres, en particulier les plus jeunes, les dissidents sexuels ou de genre, les migrants, les personnes qui subsistent avec des tâches précaires sur les voies publiques et les peuples originaires. Malgré l'isolement obligatoire, nous parveillons à recueillir et à diffuser des informations sur le harcèlement policier, les arrestations illégales, la gâchette facile, la torture et d'autres actions répressives, ainsi qu'à fournir des conseils et une assistance aux victimes.
En 2019, le Paris des Arts a posé ses valises à Buenos Aires. Et Valérie Fayol est allée à la rencontre de 4 invités. La star du cinéma argentin Ricardo Darín, l'acteur et chanteur franco-argentin Jean-Pierre Noer, la danseuse de tango Moira Cartegiano et Bernard Lavillier, installés pour quelques mois dans la capitale argentine.
C'est assez déroutant, on se croirait à Paris avec des grandes artères très haussmanniennes, des bâtiments art déco, art nouveau.
Ici, on dit que les trottoirs ressemblent à ceux de Paris.
Pourtant, on a fait 14 heures d'avion.
Ah oui, c'est long.
C'est
mais on
long.
Est très proche de cœur, si vous voulez.
Bon, allez, on le dit, on est en Argentine. Ici, on est sur la place centrale de la ville, ouais. Qui est à la fois le cœur historique, mais aussi le centre du pouvoir.
Absolument, on est en face de la maison du gouvernement, la Casa Rosada, ça veut dire la maison rose. Et ici, la pyramide de Plaza de Mayo, très important. Et surtout, l'endroit où politiquement tout arrive.
C'est donc sous les fenêtres du pouvoir que viennent défiler tous les jeudis las madres, ces mères qui souhaitent que le gouvernement se souvienne de l'assassinat de leur fils pendant la dictature.
Exactement. Tu vois, il y a des mouchoirs qui représentent les madres et aussi les grands-mères de Plaza de Mayo.
Bonjour Jean-Pierre Noël.
Bonjour Valérie, enchanté de te recevoir ici.
Bon, on se tutoie parce qu'ici tout le monde se tutoie.
C'est amical.
C'est amical. Tu es le plus français de tous les comédiens argentins. Tu vis ici depuis l'enfance. Tu as tourné pratiquement tous tes films ici. Mais avec toi, Paris n'est jamais loin. Tu viens d'ailleurs de sortir un album qui rend hommage à la chanson française parce que tu chantes aussi. On va en parler dans cette émission. Mais avant, on part en balade ?
Absolument, on y va. Merci.
Avec ses quartiers si contrastés, Buenos Aires offre plusieurs rivages. On peut emprunter les quais du Puerto Madero, admirer le pont de la Femme, flâner dans le cimetière de Recoleta et ses impressionnants sarcophages de marbre, sans oublier de visiter l'un des très nombreux musées de la ville.
On est au Malba. Le Malba, c'est le musée d'art latino-américain. C'est le plus grand musée d'art moderne de la ville, je crois.
C'est toute une fierté pour les Argentins, sans doute surtout pour les gens de Buenos Aires, non ?
On y va alors,
on y
qu'on
va.
A attendu.
Ah oui
ouais.
Ah.
Enchanté. Enchanté, bienvenue.
Hola,
Clara. Malva.
Ça va?
Hola,
comment
va?
Muy bien. Bien.
Les peintres sud-américains ont des thèmes de prédilection, des sujets de représentation qui les définissent en particulier.
Peut-être le peuple autochtone, les langages, les religions, les rituels, la culture en général, avec l'idée de récupérer ses racines, ouais, et les rapporter au présent. En plus, on a l'élément politique, bien sûr, ici on le voit. Bernie a été un artiste qui a eu succès dès très jeune, a beaucoup voyagé dans l'Europe, spécialement en France. Et il est retourné en 1930 en Argentine et a trouvé un pays en crise. Mais il est retourné en soyant un artiste surréaliste. Et c'est intéressant de voir comment ce surréalisme commence à avoir des coups de réalité. Jusqu'à, on voit ça, ce qu'on appelle le réalisme cryptique.
Donc ça, c'est l'œuvre la plus emblématique du musée.
C'est Tarsila do Amaral, et c'est une peintre brésilienne.
Oui.
C'est une des artistes les plus importantes du Brésil, mais aussi de l'Amérique latine.
D'accord.
Cette œuvre s'appelle Abaporu, de l'année 1928. Et Abaporu veut dire, dans la langue tupi-guarani, « homme qui mange homme ».
Hein? Un homme qui mange un homme.
Oh, oui, c'est un cannibale. Et pourquoi cannibale?
Oui, pourquoi cannibale?
Pourquoi?
Là, on se dit...
On ne peut pas voir le cannibalisme.
Non.
C'est parce qu'il pensait qu'avec ses racines brésiliennes, il mangeait l'influence européenne pour créer un nouveau résultat, une nouvelle idée sur l'art. Vous pouvez voir comment la Vaporu n'a pas de sexe, car on parle du peuple brésilien, pas d'un homme ou d'une femme. Ouais. Et comment il grandit à mesure qu'il est en contact avec la terre, car il apprend de sa terre.
C'est d'accord. Pour ça que le pied est démesuré.
Exactement.
Et il a les couleurs du Brésil aussi, non? Oui. Le drapeau brésilien.
Au revoir, Clara.
Au revoir.
Merci.
Merci.
Très bien.
Plaisir.
Ciao.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer.
Le Paris des années 60, à nos jours, tu lui rends hommage dans un album où tu réinterprètes des classiques de la chanson française. Comment est-ce qu'il a été accueilli ici, cet album?
C'est un revival pour les gens aussi qui ont, comme moi, vécu et aimé beaucoup le cinéma et la chanson française de cette époque. Non? Naturellement, je fais des chansons typiques de Brel, de Beco, de Montand, de Gainsbourg.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et moi je t'aimais.
Un petit mot de ta carrière au cinéma, quels ont été les films qui t'ont le plus marqué?
Peut-être un film qui a été très important pour moi, c'était Un amor de Borges. C'est un film qui a eu beaucoup de succès au Brésil et il m'a ouvert la porte de l'audiovisuel un peu partout.
Quiero que me cuentes todo de tu vida, que me cuentes cada detalle.
Ahora no.
L'un des derniers films dans lequel tu as eu un rôle, c'est un film qui s'intitule en français Retour de flamme. Tu joues aux côtés de Ricardo Darín.
Si.
Comment il est, Ricardo Darín? Alors, je te pose la question parce qu'évidemment, dans cette émission, on va le rencontrer.
J'étais fier d'être dans ce film-là de Juan Vera. Pour nous, pour tous les Argentins, pour tous les acteurs argentins, Ricardo est un rêve d'acteur.
Un
modèle. Moi, je suis fier d'avoir son amitié.
Nous savions que ce n'était pas facile. Mais nous pourrions être 30 ans. Más juntos y ser muy felices probablemente.
No, no es así.
No, no es así.
Ricardo Darín, ça va être difficile de revenir sur toute votre carrière, plus de 50 films. Quel est celui qui a changé votre vie? Est-ce que c'est Le fils de la mariée? Est-ce que c'est Dans ses yeux, le film oscarisé, ou est-ce que c'est Les neuf reines?
C'est difficile.
C'est difficile de trouver un travail qui m'aurait marqué pour toute la vie. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé avec deux films, Le fils de la mariée et Neuf reines, qui ont été lancés sur le marché international presque en même temps, et qui m'ont permis d'être connu dans deux rôles totalement différents, ce qui est très rare pour un acteur.
Ces derniers temps, j'ai remarqué que vous aimez jouer les losers magnifiques. Je pense notamment à ce rôle dans Everybody Knows. Est-ce que c'est jouissif, ces rôles-là?
Honnêtement, ce n'est jamais le rôle qui me préoccupe trop. Ce qui m'importe le plus, dans la plus grande partie des cas, c'est l'histoire. De quoi parle cette histoire? Et si l'histoire me plaît et qu'on me propose un personnage, même si ce n'est pas le héros, je le fais. Car je crois que la chose importante, c'est de faire partie d'une histoire qui aura un impact, qui est bien construite et bien dirigée. Dans le cas concret de Asghar Farhadi, je ne pouvais pas laisser passer cette opportunité, car c'est un réalisateur et un personnage que j'admire beaucoup aujourd'hui, et je voulais travailler avec lui.
Pourquoi ne pas avoir dit oui, un grand oui à Hollywood? J'imagine qu'on vous a proposé à plusieurs reprises des rôles. Est-ce que les sirènes d'Hollywood ne sont pas assez attrayantes?
Parce qu'ils ne m'ont toujours pas offert le rôle qui me motive. Je n'ai pas trouvé l'histoire qui m'a permis d'aller au-delà des a priori d'Hollywood. Non seulement au niveau de la langue, mais du concept de l'histoire. Elles n'ont pas été si nombreuses. On a dû me proposer deux ou trois rôles. Et ces deux ou trois fois, les histoires ne m'ont pas paru si attractives. Ça ne signifie pas que ça ne se fera pas dans le futur.
Un mot du théâtre, il y a une pièce française qui marque votre carrière sur les planches, c'est Art de Yasmina Reza. Régulièrement, vous remontez sur scène pour jouer ce texte. Je crois même que vous avez des velléités de le mettre en scène.
C'est trop important pour moi. Et ahora,
je vais bientôt mettre en scène Art. Normalement, avant la fin de l'année, avec une nouvelle distribution de jeunes acteurs, et je suis très enthousiaste. C'est une pièce que j'adore. Pour moi, cette pièce est vouée à être un classique du théâtre, pour beaucoup de raisons. Le thème central de la pièce, c'est un thème qui ne cessera jamais d'être d'actualité, parce que c'est la tolérance et l'intolérance entre les humains. C'est une pièce que j'ai jouée pendant 12 ans. Ça doit faire 1800 représentations. C'est vraiment un travail dont je suis fier.
Est-ce que vous êtes un bon danseur de tango?
Non. Je n'ai
pas la moindre idée de comment danser le tango. Je ne sais pas, c'est une honte.
Ce
n'est pas de ma faute, c'est la faute de la personne qui a émis l'idée que pour être argentin, il faudrait savoir danser le tango. La vérité, c'est que ce n'est pas ça. Je danse mieux la chacarera que le tango, mais je promets que dans le futur, j'apprendrai à danser le tango.
C'est dommage, on ne va pas pouvoir poursuivre notre balade dans Buenos Aires avec vous parce qu'on va parler maintenant du tango. Merci Ricardo Darín.
Bon, merci à vous.
Le tango est indissociable de Buenos Aires. Des danseurs de rue au show façon Broadway, de la musique de Carlos Gardel qui résonne dans les vieux bars aux nuits feutrées des milongas, il a tous les visages et est plus vivant que jamais. La danseuse Moira Castellano nous accompagne dans le quartier de San Telmo.
Moira, au tout départ, au tout début, le tango, c'était plutôt une danse de mauvais garçons.
Mais à l'époque, quand ça a commencé, début des siècles, c'était une danse trop intime, trop sensuelle. Donc, c'était plus pour entre garçons ou pour les femmes de certaines catégories,
on va dire.
Mais bon, après, ça a changé avec le temps, heureusement.
Le tango, il séduit par sa sensualité, par sa fierté aussi et par une sorte d'indicible mélancolie. Elle vient d'où, cette mélancolie?
C'est une culture, non? Ouais. C'est une musique, une danse, mais c'est à la base une culture. Au moment où les immigrants arrivaient de l'Europe, ils sont construits les tangos à partir de cette mélancolie de leur pays.
L'un de vos poètes célèbres disait « Le tango, c'est une pensée triste qui se danse ». Toi, quand tu danses, à quoi tu penses?
En fait, je ne pense pas.
Tu ne penses à rien?
Je ne pense à rien. Quand je danse, c'est ça qui est magique. Je suis qu'au service de la danse, de la musique et de mon partenaire, de cet instant qui est sans pensée.
Merci Moira. On va maintenant aller à la rencontre d'un musicien français qui est tellement tombé amoureux de ton pays qu'il a décidé de venir passer plusieurs mois ici pour préparer son nouvel album. Merci à toi.
Merci à vous.
C'est l'hiver à Buenos Aires, l'hiver à Buenos Aires, l'air est glacé, les gens...
Bonjour Bernard Lavillier.
Bonjour. Bon café.
Bernard, 50 ans de carrière, 21 albums, 12 tours du monde, vous n'avez jamais cessé de courir la planète pour vous en inspirer. Aujourd'hui, vous posez vos valises à Buenos Aires. Quel est le projet?
Le projet, d'abord, c'est de changer de pays et de mettre les pieds là où je n'ai jamais mis les pieds, de ne pas avoir de souvenirs et d'essayer d'écrire ce que je ressens ici. Je ne fais pas tout l'album en Argentine, hein, mais j'ai déjà écrit 3 chansons, je suis assez content. J'en ai une 4e en vue. Et puis c'est un salut aux Argentins que finalement j'ai connu toujours, ou au Brésil, ou à Paris.
Déjà en 1986, l'une de vos chansons s'intitulait « Tango » et vous disiez « J'écrivais à l'encre rouge quelques mots-clés au fond d'un bouge et j'ai trouvé dans un miroir le feu sacré du désespoir. » Elle est là, entre ces mots, l'âme du tango.
Ah, je pense que c'est l'âme du tango, peut-être vue d'une façon un peu tragique et de loin. Il y a peu de danses aussi belles que le tango, parce que les gestes sont très liés. La musique elle-même, elle monte en intensité, elle redescend. Les gestes vont avec. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas de percussion dans le tango, par exemple. Celui qui fait les percs, c'est le contrebassiste et le pianiste. Donc, c'est une musique tout à fait à part, un mélange de musique juive, ashkénaze, de musique italienne, de musique espagnole et de musique africaine tout au départ. La lune brillait sur le port, elle dansait.
En 2017, vous chantiez également Montparnasse, Buenos Aires. Quel lien existe-t-il entre nos deux capitales? Est-ce qu'il y a un lien indéfectible entre la France et l'Argentine?
Je pense. Il y a eu un grand mouvement entre les deux guerres, vers les années 20, 1910, où Paris était devenue la capitale des artistes, la capitale de l'art, des intellectuels. Et finalement, Buenos Aires est devenue pour l'Amérique latine la même chose. D'ailleurs, on voit bien, et dans l'architecture et dans la culture que les Argentins ont, tous, plus ou moins, mais ils ont une culture. Ils se considèrent un peu comme le Paris de l'époque ici. Alors c'est assez charmant d'avoir une sorte de filiation, presque une fraternité entre les deux villes.
Seul, face à face, dans la glace, je regarde les gens qui passent. C'est l'été, des gens qui rient, d'autres qui s'embrassent. C'est l'été à Montparnasse, l'été à Montparnasse. Des robes légères, des couples qui s'enlacent. Au bar de la coupole, à Montparnasse. Je vais rester seul avec de la glace à Montparnasse. Je traîne mon wagon sur les terrasses. Je cherche encore madame ces quelques traces qui inspiraient Soutine, Apollinaire. Je vais passer de l'ombre à la lumière. Je vais passer de l'ombre à la lumière. Si cette nuit mes yeux brillent, je rencontre une âme seule. C'est l'été, je parle de voyage, d'autres paysages. C'est l'hiver à Buenos Aires, l'hiver à Buenos Aires. L'air est glacé, les gens séparés, au café Margot à Buenos Aires. Des Italiens qui parlent espagnol, au café Margot à Buenos Aires. Je traîne mon wagon sur les terrasses. Je cherche encore madame ces quelques traces qui inspiraient Borges, Neruda. Si je vous intéresse, je reste là. Je traîne mon wagon sur les terrasses, je cherche encore madame ces quelques traces qui inspiraient Soutine, Apollinaire. Je vais passer de l'ombre à la lumière. Je vais passer de l'ombre à la lumière. À la lumière.